Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 21 janvier 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique intitulé « Les États-Unis se laissent submerger par le Yémen ». Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'assassinat par Israël des conseillers du CGRI, corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui ne restera pas sans réponse, a promis le président Raisi. Les familles des captifs israéliens se rassemblent devant la résidence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et puis des milliers de Yéménites ont manifesté à Sana'a et dans d'autres grandes villes du pays pour dénoncer les États-Unis d'avoir placé un Sarallah sur leur liste noire de terrorisme. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Ebrahim Raisi a fermement condamné l'assassinat de 5 conseillers du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI lors d'une frappe de missile israélien en Syrie, affirmant que de tels actes lâches ne resteront pas sans réponse. Certes, la poursuite de tels actes terroristes et criminels qui témoignent de défaites consécutives du régime sioniste illégitime dans la réalisation de ses objectifs malveillants et de sa profonde frustration face aux combattants du front de la résistance ne restera pas sans réponse, a déclaré le président Raisi dans un communiqué le samedi 20 janvier. Le CGRI a déclaré plus tôt dans la journée que 4 de ses membres impliqués dans une mission militaire consultative en Syrie avaient été assassinés lors d'une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel à Damas. Plus tard, un 5e conseiller a succombé à ses blessures. Les crimes récents du régime sioniste usurpateur, auxquels ont donné le feu vert les pays hégémoniques avec à leur tête les États-Unis et à l'égard desquels ont gardé le silence les organisations internationales, seront sans aucun doute une autre tâche sur le bilan noir de tous les soi-disant défenseurs des droits de l'homme, a déclaré le président Raisi. Il a également présenté ses condoléances aux familles des martyrs, au peuple et aux autorités de l'Iran. Aucune capsule d'oxygène ne pourra réanimer Netanyahou, déclaration du chef de la diplomatie iranienne. Lors de sa visite en Suisse pour participer au Forum économique mondial de Davos, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian a accordé mardi 16 janvier une interview à la chaîne de télévision américaine CNBC. Au cours de cette interview, le ministre iranien a fait le point sur un certain nombre de sujets relatifs à la situation dans la région d'Asie occidentale, y compris sur l'implication imputée à la République islamique d'Iran dans les opérations des forces armées yéménites contre les navires liés au régime israélien en mer Rouge. Amir Abdollahian avait réfuté à cette occasion les allégations des services de renseignement américains qui prétendent que la République islamique d'Iran
a prêté main forte aux forces armées yéménites dans leur opération en mer Rouge contre les navires liés à Israël. Sachez d'autre part que de milliers de Yéménites ont manifesté à Sanaa et dans d'autres grandes villes du pays pour dénoncer les États-Unis d'avoir placé un Sarala sur leur liste noire de terrorisme. Les manifestants ont également exprimé leur soutien indéfectible aux opérations de l'armée yéménite dans la mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les responsables affirment que la récente décision des États-Unis s'explique par le soutien de Washington au régime israélien et à ses atrocités à Gaza. Ils affirment que les États-Unis mettent la région en danger pour protéger le régime israélien qui illustre clairement le terrorisme. En réponse aux attaques incessantes de l'armée yéménite contre des navires liés à Israël dans la mer Rouge, dans le cadre de son blocus contre Israël, les États-Unis ont classé de nouveau le mouvement Sarala comme groupe terroriste. Le bilan des attaques israéliennes contre la bande de Gaza a dépassé les 25 000 morts alors que le régime poursuit ses frappes meurtrières sur le territoire palestinien assiégé. Le ministère de la Santé de Gaza affirme qu'au moins 178 personnes ont été tuées et 293 blessées en seulement 24 heures. Le nombre de blessés depuis le 7 octobre s'élève à plus de 62 600 personnes. Des milliers de corps sont également toujours portés disparus sous les décombres. Environ deux tiers des personnes tuées à Gaza sont des femmes et des enfants. L'agression israélienne a également entraîné le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens à Gaza, qui est soumise à un blocus quasi total depuis le début de l'attaque. Enfin, sachez d'autre part que les familles des captifs israéliens détenus par le mouvement de résistance islamique de la Palestine Hamas à Gaza ont organisé samedi 20 janvier une manifestation devant la résidence du premier ministre du régime Benjamin Netanyahou, appelant le cabinet d'extrême droite à prendre des mesures audacieuses pour libérer les captifs, tandis que la guerre israélienne contre l'enclave assiégée entre dans son quatrième mois. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les États-Unis se laissent submerger par le Yémen, selon Atvan. Israël a réussi à exploiter ses relations distinguées, anciennes et renouvelées avec l'administration du président américain Joe Biden, et ses relations se sont renforcées grâce à certaines personnalités sionistes qui lui sont fidèles, comme Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, et Amos Hochstein, le secrétaire d'État pour les affaires énergétiques, pour entraîner les États-Unis dans les guerres qu'ils mènent actuellement dans la région du Moyen-Orient, en particulier dans la bande de Gaza, en Irak et au Yémen. Ce qui conduira inévitablement à l'épuisement politique, financier et militaire et à l'érosion du leadership américain, non seulement sur le monde, mais aussi sur le monde occidental. C'est ce qu'a écrit le rédacteur en chef du journal en ligne, Rai Aliaoum, dans son dernier article sur l'échec imminent et lourd des États-Unis face à un Sarala. Si l'on considère le Yémen comme le front le plus récent ouvert directement par les États-Unis au Moyen-Orient pour protéger les navires israéliens dans la mer Rouge et la mer d'Oman, où la plupart des exportations du régime occupant transitent vers le continent asiatique, alors on peut dire sans hésitation que Washington a commis une erreur stratégique qui l'a conduite à tomber dans un gouffre profond et sans fond. Toutes les alliances que les États-Unis ont formées et toutes les guerres qu'ils ont dirigées dans la région du Moyen-Orient ont toutes échoué, précise le journal. Abdelbari Atvan, l'auteur de l'article, estime que la politique suivie par l'administration du président Biden au Yémen repose sur plusieurs piliers et vise à atteindre plusieurs objectifs en plus de l'objectif principal de rouvrir la mer Rouge aux navires israéliens. Primo, une tentative de déstabiliser le gouvernement de Sana'a, dirigé par le mouvement Ansar Allah, en l'assiégeant et en bombardant ses bâtiments militaires avec des missiles et des drones. Secondo, remettre ce gouvernement sur la liste des terroristes pour lui imposer un isolement international. Tertio, empêcher l'expansion de la guerre dans la région du Moyen-Orient sur la base de la guerre génocidaire israélienne dans la bande de Gaza, en commençant par Bab el-Mandeb et la mer d'Oman. Cette politique est vouée à l'échec à première vue et donnera des résultats négatifs à ses auteurs et aux dirigeants américains en particulier, car elle se heurtera à une résistance farouche de la part des Yéménites qui ont un héritage historique honorable et profond dans la défaite des occupants. Israël, qui a entraîné l'administration américaine dans ce piège yéménite, les yeux grands ouverts et inconscients, n'a jamais osé lancer un seul missile sur le Yémen, car il connaît très bien ses conséquences. Il a assigné cette tâche aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Ce qui est plus dangereux, c'est sa tentative de créer une division sans précédent dans le monde occidental qui se produit pour la première fois depuis 80 ans. Il convient ici de rappeler que lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak et occupé ce pays, ils ont pu faire associer sans problème 36 pays et ont également mobilisé 65 pays pour renverser le régime de Muammar Kadhafi en Libye. Dans la grande guerre terroriste que les États-Unis ont lancée contre la Syrie, 75 pays ont rejoint Washington et des centaines de milliards de dollars ont été dépensés dans le but de diviser la Syrie et de renverser son gouvernement. Mais aujourd'hui, nous voyons que Washington n'a même pas réussi à mobiliser 10 pays pour contrôler la mer Rouge et déclarer la guerre au Yémen. De grands pays comme la France, l'Espagne et l'Italie ont préféré utiliser leur droit de veto à cet égard et se protéger du pari américain, qui est déjà perdant. En attendant, aucune des attaques conjointes des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre des cibles militaires au Yémen n'affaiblira le mouvement Ansar Allah et sa coalition parce que les États-Unis semblent avoir oublié qu'Ansar Allah s'est opposé aux agressions contre le Yémen pendant 8 ans sous la supervision et le soutien total des Américains, affirme Atwan. Selon le journaliste, les Yéménites n'ont pas été vaincus dans la guerre dévastatrice de 8 ans lancée contre le Yémen sur ordre des États-Unis et ils en sont sortis avec succès après quoi le Yémen a été qualifié de puissance influente dans la région. Abdelmalik Aloussi, le leader d'Ansar Allah, a souligné dans son récent discours « L'agression américano-britannique n'affectera pas notre puissance militaire ». Et nous mènerons davantage d'attaques en mer Rouge. Outre les navires israéliens, cette opération ciblera également les navires américains et britanniques. Cet éminent analyste du monde arabe a ajouté que l'une des expressions les plus fortes, les plus convaincantes et les plus justifiées exprimées dans le discours du leader d'Ansar Allah était celle-ci. Si l'Amérique se permet de venir dans notre région à une distance de plus de 9000 km, alors comment se fait-il que nous n'ayons pas le droit de nous tenir aux côtés du peuple palestinien dans notre région? La guerre génocidaire à laquelle la population de Gaza est aujourd'hui exposée se déroule sous les yeux et les oreilles du monde entier, des institutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité, des organisations de défense des droits de l'homme et même de la Ligue arabe et de certains pays arabo-musulmans. Nous voyons la réponse de la nation yéménite aux menaces et aux agressions des États-Unis dans ses manifestations d'envergure et son grand soutien au gouvernement de Sana'a et aux positions de ce gouvernement pour aider la population de Gaza. Nous n'exagérons pas lorsque nous disons que les amis sionistes des États-Unis ont aveuglé les yeux de ce pays et n'ont aucune compréhension de la situation dans la région, a encore précisé le journal. Cet analyste palestinien a poursuivi en disant sur un ton sarcastique « L'un des responsables du département d'État américain a déclaré que la remise du Yémen sur la liste du terrorisme signifie que les responsables d'Ansar Allah ne recevront pas de visa d'entrée aux États-Unis. Désolé, nous ne savions pas que M. Abdelmalik Aloussi était très attristé par cette nouvelle et ne pouvait pas dormir la nuit parce qu'il a été privé de son ancien passe-temps qu'est le shopping sur les marchés de New York et ses centres commerciaux. On ne savait pas que le leader d'Ansar Allah passe ses vacances d'hiver dans son palais de Miami et ne séjourne pas à Sanaa. » Abdelbari Atwan conclut son article en ces termes. Les États-Unis se sont laissés tomber dans le bourbier yéménite et ils s'en morderont bientôt les doigts de regret. La défaite que subira Washington au Yémen n'est nullement comparable aux défaites américaines au Vietnam et en Afghanistan.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi. Nous allons nous pencher à cette occasion sur cette requête déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice basée aux Pays-Bas à La Haye, accusant Israël de se livrer d'actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Plusieurs pays ont soutenu la requête et il y a déjà des séances auprès de la Cour. Alors, pour citer, le Mexique, le Chili rejoignent l'Afrique du Sud pour poursuivre Israël en justice. À cela s'ajoute un certain nombre de pays, dont l'Iran, la Russie, également le Venezuela, le Brésil, la Malaisie, la Turquie. Je vous propose un point en image avant de vous retrouver pour saluer nos experts. Restez avec nous.
Le Mexique et le Chili ont appelé la CPI à enquêter sur les crimes de guerre d'Israël dans la bande de Gaza. Le Mexique et le Chili ont demandé à la Cour pénale internationale CPI d'enquêter sur la guerre génocidaire menée par Israël contre Gaza, citant l'escalade de la violence contre des cibles civiles. Les offensives israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont provoqué de vastes destructions, ont suscité une inquiétude croissante internationale. De nombreux militants et institutions internationales ont exigé que le régime israélien rende des comptes. Dans un communiqué, le ministère mexicain des Affaires étrangères a fait valoir que la CPI était l'instance appropriée pour établir une responsabilité pénale potentielle des responsables du régime d'occupation israélien. Le Mexique a cité de nombreux rapports des Nations Unies qui détaillent de nombreux incidents qui pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la CPI. L'agence de presse Reuters a écrit que le ministère des Affaires étrangères du Chili avait toutefois évité de donner tout commentaire à Reuters. Le Mexique a déclaré qu'il suivait de près l'affaire présentée la semaine dernière devant la Cour internationale de justice CIJ, dans laquelle l'Afrique du Sud accusait Israël d'avoir perpétré le génocide à Gaza. Il y a quelques semaines, l'Afrique du Sud a déposé une enquête auprès de la CIJ basée à La Haye, aux Pays-Bas, accusant Israël de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Les audiences du tribunal international ont eu lieu la semaine dernière, au cours desquelles l'avocat sud-africain a accusé Israël de tentative de génocide à Gaza. L'équipe de représentants légaux de l'Afrique du Sud a présenté lundi 11 janvier l'affaire devant le tribunal de l'ONU, affirmant que le régime israélien avait une intention effrayante et incontestable de commettre un génocide à Gaza en sachant parfaitement combien de civils seront tués. Le ministère mexicain des Affaires étrangères a déclaré le jeudi 18 janvier, dans une déclaration en soutien à l'Afrique du Sud, le Mexique est convaincu que ces mesures peuvent faciliter un plan de cessez-le-feu immédiat et aider au rétablissement d'une paix durable dans la région basée sur une solution à deux États.
Retour au plateau, j'ai le grand plaisir de recevoir par Skype Madame Aïssar Midani, analyste franco-syrienne qui nous rejoint depuis Paris. Bonjour Madame, ravie de vous retrouver.
Merci de votre invitation. Bonjour à l'ensemble de l'équipe Presse TV et à votre invité et ainsi qu'à tous les téléspectateurs.
Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, dont notamment la question du conflit israélo-palestinien. J'ai également le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Arnaud Doublet, juriste international, analyste politique. Bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour au docteur Midani.
Monsieur Doublet, vous êtes juriste international. Alors, permettez-moi de poser ma première question à vous. Le Mexique et le Chili, je vous le disais, ont appelé la Cour pénale internationale à enquêter sur le crime de guerre d'Israël dans la bande de Gaza. Alors, le Mexique et le Chili ont demandé à la Cour pénale internationale, ces pays, d'enquêter sur la guerre génocidaire qui est devenue très, très préoccupante avec cette vague de destruction, ce massacre de civils, exigeant que le régime israélien rende des comptes. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, quel premier regard portez-vous d'abord sur les résultats de cette audience s'agissant du dossier et de requête qui a tant intenté par l'Afrique du Sud et ses résultats. Est-ce que c'était satisfaisant en faveur des opprimés palestiniens?
Mais écoutez, dans cette affaire, on part de très très loin. Hein. C'est quand même 75 ans d'une campagne, un génocide à petit feu, qui a, depuis le 7 octobre, connu une accélération fulgurante, puisque on a maintenant des dirigeants sionistes qui, au plus haut niveau de l'organigramme, font des déclarations qui ne laissent aucun doute quant à l'intention qu'ils nourrissent de, à tout le moins, nettoyer ethniquement la bande de Gaza, voire se débarrasser complètement des Palestiniens. Et donc, on est complètement en roue libre. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient, effectivement, devant l'ampleur des massacres systématiques. Rappelons pour nos téléspectateurs, on parle de plus de 25 000 morts, dont 11 000 enfants, près de 60 000 blessés. C'est sans compter tous les morts qui sont encore sous les débris, sous les décombres qu'on n'a pas pu, bien sûr, recenser. Donc, c'est vraiment au niveau, tant au niveau de la... comment dirais-je, du nombre de morts par jour, gardant à l'esprit que durant les deux audiences de la semaine dernière, alors même que l'un des avocats sionistes laissait entendre que le régime d'occupation n'avait jamais bombardé d'hôpitaux, un hôpital était bombardé à Khan Yunis, occasionnant 100 morts. Donc, visiblement, et ils ont déjà fait des déclarations dans ce sens, les dirigeants sionistes se contrefichent complètement des procédures, de la procédure en question, et ils ont même déclaré officiellement qu'ils ne respecteraient en rien les déterminations de la Cour, sachant qu'entre-temps, l'Allemagne et la France ont déclaré ouvertement que, selon eux, la procédure devant la Cour internationale de justice visant à constater le manquement aux obligations qui incombent au régime sioniste eu égard à la Convention de 1948 sont quelque part déplacées et ne s'appliquent pas du tout. Donc, il est certain qu'avec des déclarations portant sur une impunité quant à ce qui se passe à Gaza, Tel Aviv est en roue libre. Et bien que je n'ai aucun doute quant à l'injonction préliminaire qui sera... formulé par la Cour, et éventuellement, certains parlent de plusieurs années avant que sur le fond, il soit déterminé par la Cour qu'un génocide est en fait en train d'avoir lieu, La question de savoir, c'est comment amener, si je puis dire, le régime sioniste à cesser ses agissements. Pour l'instant, le seul pays qui semble avoir pris ses responsabilités, alors même qu'on lui nie toute souveraineté au regard de la reconnaissance internationale, c'est le Yémen.
Oui, exactement. Merci beaucoup, Arnaud Doblet. Assar Midani, alors le ton utilisé par les autorités israéliennes à l'égard des Palestiniens était l'un des axes de ce dossier, de cette requête de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour pénale internationale. Alors, j'aimerais bien vous citer pour rappel, nous luttons contre les animaux humanoïdes, nous transformerons Gaza en un abattoir et la bande de Gaza doit disparaître de la surface de la Terre. Voilà, ce ton déjà montre l'intention de génocide utilisée par plusieurs autorités israéliennes, plusieurs soutiens d'Israël, des colons. Alors, comment réagissez-vous ?
Écoutez, c'était pas seulement des déclarations de type génocidaire, mais aussi des déclarations clairement racistes, fascistes, ce qui montre encore aussi qu'Israël est un pays d'apartheid, ajouté à toutes les pratiques, ajouté au fait aussi à l'intention de génocide aussi, parce qu'il y a des déclarations, par exemple, du maire adjoint de Jérusalem qui a dit enterrons les vivants, on sera débarrassé, enterrons les tous vivants. Donc en fait l'intention de génocide est confirmée tous les jours, elle est confirmée aussi par la pratique, par l'invasion des hôpitaux. Les hôpitaux sont devenus une cible privilégiée des attaques sionistes, pas seulement d'ailleurs à Gaza mais aussi en Cisjordanie. Je rappelle que l'hôpital de Jenin et de Tel Kerem, deux hôpitaux ont été aussi entourés par les chars et envahis. Les arrestations en Cisjordanie ont dépassé les 5900 arrestations arbitraires aussi par l'armée israélienne, ajoutées au génocide qui continue de plus belle aussi à Gaza, même pas seulement contre les civils, des immeubles entiers qui sont détruits sur la tête de leurs habitants, mais en plus l'interdiction des convois humanitaires à rentrer et à distribuer le peu de secours qu'ils ont, mais les Palestiniens lorsqu'ils viennent à récupérer les secours alimentaires, ils se font tirer dessus par l'armée israélienne. Donc en fait, c'est en plus un génocide où ils visent particulièrement aussi les enfants, les femmes, particulièrement les civils en fait, parce que les immeubles sont effondrés sur la tête de leurs habitants, la nuit, le jour, etc., tout le temps, des immeubles entiers d'habitations qui sont visées et détruites sur la tête des habitants. J'ajoute aussi au fait que par le blocus, ils interdisent aussi l'arrivée des secours, mais en plus, ils ont coupé l'eau, l'électricité, pollué les eaux des puits, interdiction aussi de faire parvenir les médicaments, les aides humanitaires nécessaires au premier secours. Donc en fait, les gens, non seulement ils meurent sous les bombes et sous les décombres de leurs bâtiments qui sont détruits, mais aussi ils meurent de dysenterie, de manque de médicaments, de froid, parce que même les tentes qui sont dressées pour abriter de manière très légère, je dirais, les gens, ils sont visés par les bombardements aussi israéliens. Il y a donc une prolifération des microbes, parce qu'il n'y a pas d'eau potable. Les circuits d'eau potable ont été détruits dès le premier jour, ainsi que les stations d'épuration des eaux. Donc, ça fait maintenant 105 jours, on est dans le 106e jour, en fait, que la population boit des eaux de fortune et mange des choses qui sont disponibles, mais aussi de fortune, ou pas du tout. Donc, il y a famine, il y a prolifération de maladies, avec le froid qui est là, qui est arrivé, la pluie, les pluies, etc. Donc, une prolifération de problèmes de santé. Donc, les gens, ils ne meurent, s'ils ne meurent pas sous les bombes israéliennes, ils meurent de maladies ou de manque de traitement. Il y a aussi un nombre important de personnes qui ont des maladies durables, du style du diabète ou cancer, etc., qui vont mourir de manque de médicaments. Donc, tout ça, c'est absolument macabre. Et les Israéliens continuent, avec une protection totale, d'ailleurs, et indéfectible des États-Unis, ce qui me fait dire aussi que les États-Unis sont aussi complices dans le génocide et qu'il faudrait aussi orienter les attaques et les accusations contre eux, parce qu'ils sont complices totales et soutien total de génocide qui se déroule sur la terre palestinienne à Gaza contre les Palestiniens.
Merci. Arnaud Doblet, alors combien de dire Madame Idani, alors tout est au rendez-vous pour un crime génocidaire dans la bande de Gaza sous blocus depuis 2007 et depuis cet octobre sous un blocus total. Alors le problème, c'est que ce qui saute aux yeux s'agissant de ce crime israélien dont parle tout le monde, c'est que les bombardements israéliens ne font pas distinction entre les civils et les militaires. Bon, c'est la loi la plus élémentaire de toute guerre. Également, Israël ne fait pas de distinction entre les femmes, les enfants, tout est cible. Ce qui est commis constitue un génocide au sens, d'après les experts et les droits internationaux, au sens le plus vrai du terme. Comment réagissez-vous face à ces bombardements qui ne font pas distinction?
Ben écoutez, comme vous l'avez souligné, si on s'en tient à la définition du crime de génocide, on est vraiment en présence d'un génocide, j'allais dire... typique, puisque effectivement, il ne s'agit pas de viser les cibles militaires, qui, passons, il semblerait que ces objectifs n'aient pas été vraiment définis, que de toute façon, quand on entend les dirigeants sionistes parler de l'éradication du Hamas, ça n'a aucun sens. C'est un mouvement de libération nationale. Donc, s'il venait à en éliminer une portion, vous verriez probablement autant, voire plus de volontaires pour rejoindre le mouvement. Donc, tout ça, c'est quelque part pour la galerie. La véritable intention, c'est celle, effectivement, d'éradiquer les Palestiniens, où qu'ils soient, que ce soit effectivement les femmes, les enfants, mais aussi faire piller les cimetières, éradiquer toute forme de culture, cibler les élites palestiniennes, parce qu'il est hors de question que ces derniers puissent, si je puis dire, relayer la culture locale. C'est une opération de table rase. Et en cela, c'est intéressant de voir que quand même, finalement, même si on peut avoir des frustrations quant au rythme auquel les choses vont au niveau des institutions internationales, il y a quand même une prise de conscience. Plus le temps passe, plus en plus de pays affirment leur solidarité avec la requête déposée par l'Afrique du Sud, même si cette dernière a déclaré qu'elle préférait s'occuper du dossier seule. Mais rappelons aussi qu'une autre requête a été déposée devant la même juridiction contre les États-Unis pour complicité de génocide, et une troisième requête a été déposée contre l'État sioniste pour le crime d'apartheid. Donc il y a une prolifération d'actions qui est en train d'avoir lieu. Ce qui risque de se passer, à mon avis, c'est que, considérant l'obsolescence du Conseil de sécurité dans ce dossier particulier, avec 35 veto sur 39 des États-Unis couvrant les sionistes dans leurs crimes, c'est que le dossier, suite à ce qui ne manquera pas d'arriver, donc cette mesure intermédiaire de la Cour visant à enjoindre l'État sioniste de mettre fin à ses exactions, dans la mesure où cet ordre de désistement n'est pas respecté, ce sera donc l'Assemblée générale qui, en vertu de l'article 22 de la charte, peut s'emparer du dossier et, partant de là, prononcer, en tout cas mettre en œuvre un certain nombre de mesures, parmi lesquelles la suspension de l'État sioniste de certaines de ses activités et ou prérogatives au sein de l'Assemblée générale, la création d'un tribunal ad hoc pour juger les criminels du régime sioniste et le passage, l'adoption de sanctions. C'est tout à fait dans la charte. Donc cette séquence que nous vivons devant la Cour de justice internationale, on l'espère, va donner plus de pouvoir à l'Assemblée générale et ce faisant mettre en lumière le fait que le Conseil de sécurité tel que présentement constitué et avec ses systèmes de veto n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui.
Merci pour ces éclairages, Monsieur Doblé. Alors, Assar, dans la politique israélienne, l'expulsion et le massacre se complètent. On s'en souvient de Nakba, la catastrophe. Israël fait pression sur les pays de l'Égypte jusqu'au Congo, en Afrique, pour accepter les Palestiniens de la bande de Gaza. Alors Israël considère une telle démarche comme volontaire, mais on sait que ce n'est pas volontaire, c'est forcé et les Palestiniens n'ont pas d'autre alternative que mourir dans la bande de Gaza sous un blocus total ou bien se déplacer.
Effectivement, alors ils font effectivement d'ailleurs cette déclaration aussi de certains dirigeants qui disent « de toute façon, on veut la Palestine, elle est à nous ». Et il faut que les Palestiniens partent. Il faut qu'ils aillent ailleurs. Et puis, voilà. Donc, il y a eu énormément de pour parler avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite, avec d'autres pays, pour faire pression, pour pouvoir accepter et accueillir les Palestiniens chez eux, mais aussi en même temps, la pression par les bombes et par les bombardements massifs. Et les arrestations massives, les tortures, les crimes en fait quotidiens contre les Palestiniens pour les obliger à partir aussi, et où effectivement les Palestiniens affirment tous les jours « ça c'est notre pays, de toute manière c'est la Palestine, c'est notre pays, nous y avons nos aïeux, nos ancêtres, nous y resterons et nous nous battrons pour l'indépendance de la Palestine ». Donc, en fait, il faut savoir aussi que les Israéliens sont des gens qui sont venus de toutes parts, de partout, après la Deuxième Guerre mondiale, pour occuper la Palestine, après, soi-disant, la Shoah, et après les crimes nazis contre les Juifs, qui ont été utilisés massivement, justement, par le sionisme, pour faire croire aux Juifs qu'ils ne seront tranquilles que dans un pays à part. Au lieu de se battre pour avoir des droits pour les Juifs comme pour tout le monde, des droits à la citoyenneté normale, chose à laquelle d'ailleurs il y a beaucoup de Juifs qui ont, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont affirmé qu'ils sont français comme les autres et qu'ils sont allemands comme les autres, etc. Et tous ces Juifs aussi se démarquent maintenant de plus en plus. Il y a un mouvement juif anti-sioniste qui se démarque de plus en plus du sionisme et qui montre aussi à quel point cette hérésie qui a été créée, que les juifs, les judaïsmes, que le sionisme c'est la défense du judaïsme, montre que c'est faux et qu'aujourd'hui, au contraire, le sionisme est contre les juifs au même titre que contre les autres. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. On a vu le mouvement des juifs non sionistes américains qui a envoyé une délégation même au tribunal international de justice qui ont manifesté devant les tribunaux en enlevant des slogans et des mots d'ordre aussi qui ne sont pas en notre nom d'une part et puis d'autre part vous n'avez rien, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme, est une exploitation des juifs aussi.
Merci.
Alors je signale aussi quelques livres, beaucoup d'intellectuels juifs et israéliens aussi qui ont écrit dans ce sens.
Merci pour tous ces éclairages et analyses. Merci à vous également, Arnaud Doublet, et amis téléspectateurs. Au revoir, à la prochaine.
Afrique économique.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Afrique économie. Dans cette édition de l'Afrique économie, comme chaque semaine, nous allons passer en revue l'actualité économique la plus importante du continent africain. Restez avec nous. Cameroun vers la création d'une société de patrimoine des infrastructures numériques. L'opérateur historique Comtel est le gestionnaire des infrastructures télécom publiques du Cameroun. Le plan de restructuration sur lequel travaille le gouvernement prévoit, entre autres, de transformer la société publique en une holding composée de 3 entités. Une société de patrimoine des infrastructures numériques devrait voir le jour au Cameroun d'ici la fin de l'année 2024 pour gérer et développer les actifs numériques publics du pays, c'est ce qu'a annoncé Judith Yassondeuil, directrice générale de l'opérateur historique Comtel, lors d'une conférence de presse tenue à Yaoundé le mardi 16 janvier. La SPIN sera une filiale de Comtel à Pronton. Elle sera chargée de valoriser le patrimoine de la société publique, notamment le réseau national de fibre optique, le câble sous-marin à fibre optique, le satellite télécom, les stations terriennes et les centres de données. Elle aura également pour mission de développer de nouveaux projets d'infrastructures numériques en partenariat avec le secteur privé et les bailleurs de fonds internationaux. La création de la SPIN intervient alors que le gouvernement camerounais pense à restructurer Comtel pour le rendre plus compétitif sur le marché télécom national. La Côte d'Ivoire suspend les exportations de produits vivriers jusqu'en juillet 2024. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole fournit environ 16,7% du PIB. Si les cultures comme la noix de cajou, le cacao ou le caoutchouc portent les exportations, la production vivrière joue un rôle crucial dans la sécurité alimentaire. En Côte d'Ivoire, les exportations de produits vivriers sont interdites depuis le 15 janvier dernier pour une durée de 6 mois. L'annonce a été faite dans une note publiée conjointement par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, le ministère des Finances et du Budget et celui du Commerce et de l'Industrie. Cette décision vise à assurer un approvisionnement régulier du marché local en produits vivriers en vue de garantir la sécurité alimentaire des populations vivant en Côte d'Ivoire. Tout manquement à cette disposition est possible de sanctions conformément aux dispositions prévues par la loi, indiquent les autorités. Cette mesure de suspension intervient dans un contexte où le pays devrait connaître un pic de consommation alimentaire, notamment au milieu urbain avec l'afflux de visiteurs dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient du 13 janvier au 11 février. La PNUD lance un fonds de 1 milliard de dollars ciblant des start-up africaines. Le principal organisme des Nations Unies pour le développement s'est associé à des États africains pour mettre sur pied un fonds innovant qui soutiendra l'écosystème des start-up africaines. Le programme des Nations Unies pour le développement a annoncé le mercredi 17 janvier 2024 le lancement d'un fonds d'innovation de 1 milliard de dollars ciblant des start-up africaines. Dénommé Timbuktu, ce fonds mobilisera ce montant sous forme de capitaux catalyseurs et commerciaux auprès de gouvernements africains, d'investisseurs, d'entreprises et d'universités. Ces acteurs agiront sur tous les aspects liés à la création et au développement de start-up afin d'accompagner la croissance d'entreprises innovantes et à fort potentiel sur le continent. Ce qui rend Timbuktu unique, c'est sa conception qui associe capital commercial et capital catalyseur pour réduire les risques d'investissement privé avec une approche panafricaine de soutien start-up. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa lance un projet de logement de 53 millions de dollars dans la province du Cap-Nord, malgré les efforts du gouvernement pour construire 300 000 logements au cours des 5 dernières années. L'Afrique du Sud reste confrontée à un important déficit de logements avec plus de 2,4 millions de ménages inscrits sur le registre national des besoins en logement en 2023, selon le CAHF. Le président sud-africain a inauguré le jeudi 18 janvier un projet de logement d'une valeur d'un milliard de rands à Kimberley, dans la province du Cap-Nord. L'initiative vise à construire plus de 4000 nouvelles habitations au cours des 12 à 18 prochains mois. Selon le communiqué du gouvernement, ce projet a pour objectif de remédier à l'urgence du déficit de logements dans la province, touchant environ 162 établissements informels et près de 80 000 ménages, avec l'achèvement prévu de 2 500 maisons l'année prochaine. Celui-ci sera soutenu par un prêt de 600 millions de rands de la Banque de développement d'Afrique du Sud, qui complétera les subventions gouvernementales, a indiqué le communiqué. Les arrivées de touristes ont atteint 96% de leur niveau pré-pandémique en 2023. L'organisation onusienne s'attend à ce que le nombre de touristes internationaux dépasse légèrement son niveau pré-pandémique en 2024, grâce notamment à une reprise plus vigoureuse du secteur en Asie. En Afrique, les arrivées de touristes internationaux ont atteint 96% de leur niveau d'avant-pandémie de COVID-19 en 2023, indiqué l'Organisation mondiale du tourisme dans un communiqué publié ce vendredi 19 janvier. Le continent est ainsi la deuxième région ayant enregistré le plus fort rebond de l'activité touristique durant l'année écoulée, après la région du Moyen-Orient, où les arrivées de touristes ont dépassé de 22% leur niveau de 2019, dernière année avant la pandémie de COVID-19, a-t-on précisé de même source. En Europe, première destination touristique au monde, le nombre de touristes internationaux a atteint 94% de son niveau pré-pandémie contre 97% de la région Amérique. La reprise a été plus faible dans la région Asie-Pacifique où les arrivées de touristes internationaux se sont limitées à 65% de leur niveau pré-pandémique.
Thank you.